travailleurs. La campagne pour la présidentielle est lancée et je voudrais discuter des objectifs qui sont les nôtres et du combat que nous avons à mener. Habituellement, les campagnes électorales s'organisent autour de l'affrontement gauche-droite, avec d'un côté la droite qui revendique une politique ouvertement pro-patronale, et de l'autre, le Parti socialiste qui tente de plaire, ne serait-ce qu'en parole, à l'électorat populaire. Cette fois, les principaux candidats de gauche et de droite ont choisi de faire du terrorisme et des migrants le centre de la campagne. C'est le fonds de commerce que se disputent Le Pen et Sarkozy. Mais, comme Hollande ne peut pas rejouer la comédie de « mon ennemi, c'est la finance », c'est aussi sur ce terrain-là qu'il veut tirer son épingle du jeu. Ce petit jeu à trois donne donc lieu à une campagne sécuritaire, anti-immigrée et xénophobe, répugnante. Il contribue à alimenter un climat anxiogène, renforce les pires préjugés et encourage les plus racistes. Eh bien, il ne faut pas rester à regarder. Contre cette campagne démagogique, il faut que les travailleurs mettent en avant leurs préoccupations et défendent leurs propres intérêts matériels et politiques. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et s'il y a des salariés qui vont au boulot la peur au ventre, ce n'est pas à cause du danger terroriste. C'est de peur d'être licenciés. C'est parce que les cadences et la charge de travail ne cessent d'augmenter. C'est parce que la pression des cadres et des chefs est de plus en plus insupportable. Voilà les problèmes du monde ouvrier. Et c'est ce qu'ont exprimé des centaines de milliers de salariés du privé et du public pendant les 4 mois de la mobilisation contre la loi El Khomri. En se battant contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social en entreprise, ils ont porté les revendications du monde du travail. Et c'est pour cela que l'écrasante majorité des travailleurs s'est reconnue dans ce mouvement et en a été solidaire. Eh bien, il faut que cette contestation s'exprime aussi dans les élections. Regardez Alstom, 6 milliards de bénéfices en 10 ans, 30 milliards d'euros de contrats aux quatre coins du monde, et la direction envisage la fermeture de l'usine de Belfort. Regardez SFR, qui appartient au géant Altice. La direction annonce 5000 suppressions d'emplois, ici dans la région, Hitachi, Philips, et combien d'autres encore? Cela fait près de 4 décennies que l'économie est en crise. Les fermetures d'usines, les suppressions d'emplois ne se sont pas arrêtées. Avec le krach de 2008, elles se sont accélérées. Rien que depuis 2012, 887 usines auraient fermé à l'échelle du pays. Eh bien, dans cette campagne électorale, nous appelons les travailleurs à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous de façon à combattre le chômage et bien sûr aussi pour augmenter les salaires. Parce que crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous devons affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. S'exprimer, se rassembler le plus nombreux possible pour faire entendre le camp des travailleurs au premier tour, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui sera vainqueur au second tour. On le sait d'avance, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Choisir parmi Sarkozy, Juppé, Hollande, Le Pen, c'est choisir celui qui nous attaquera à partir de 2017. C'est tendre le bâton pour se faire battre. À droite, Sarkozy, Juppé et Fillon se déchirent pour accéder à la bourgeoisie. Mais ils sont d'accord pour retarder encore l'âge de la retraite, d'accord pour dire que les fonctionnaires sont trop nombreux et les chômeurs trop bien traités. Ils sont d'accord pour baisser les impôts patronaux et dégrader les services publics, d'accord pour qu'on considérer que les salariés ne travaillent pas assez et qu'il faut rallonger le temps de travail. En se succédant au pouvoir depuis des décennies, la droite et la gauche se passent le relais pour remettre en cause les conditions de vie des plus pauvres. Si la droite peut parler de la retraite à 65 ans, c'est que Hollande a entériné le départ à l'âge de 62 ans qui avait été adopté sous Sarkozy, et c'est parce qu'il a en plus augmenté la durée de cotisation pour toucher une retraite pleine. Et si la droite, aujourd'hui, peut dire qu'elle fera 80 à 100 milliards de coupes dans les dépenses publiques, c'est parce que Hollande en a fait 50. Couper dans les dépenses publiques signifie toujours dérembourser des soins, mettre les hôpitaux à la diète, en les obligeant à redevenir rentables, quitte ensuite à fermer des lits, à manquer de médecins, de chirurgiens, et d'imposer des listes d'attente toujours plus longues aux malades. Cela signifie toujours rogner sur les allocations familiales, sur les APL, remplir jusqu'à saturation les classes des écoles, des collèges. De gauche ou de droite, ces politiciens ont tous mis en œuvre cette politique. Une politique aussi pour baisser, comme ils disent, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité et les profits patronaux. C'est cette politique anti-ouvrière que nous subissons depuis des décennies. Nous en avons fait l'expérience avec la droite, avec la gauche. Nous n'avons pas fait cette expérience avec le Front National. Alors, certains autour de nous se disent, finalement, il n'y a que Le Pen qu'on n'a pas essayé. Mais Le Pen, c'est Hollande et Sarkozy en pire. C'est du faux neuf. Le Front National n'a pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement. Mais il a un passé politique. Le Front National, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française, avec une grosse couche de maquillage. La fille a remplacé le père, mais ses idées sont toujours là, c'est-à-dire l'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves, aux travailleurs qui se battent. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés dont elle fait partie, elle est de l'autre côté de la barricade, du côté de l'ordre et du gouvernement, et on l'a vu lors des grèves et des manifestations du printemps contre la loi de travail. Alors quand on appartient au monde ouvrier, voter pour les Sarkozy, Hollande ou Le Pen, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts. Dans cette élection, il faut au contraire affirmer nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp opposé à celui de la bourgeoisie et tous ses serviteurs politiques. À les entendre tous, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays, ce sont Calais, les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme, qu'ils contribuent d'ailleurs tous à créer par leurs mille et une provocations quotidiennes. Cette campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion et c'est de la démagogie, car ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors, et c'est ce qui se fait d'ailleurs déjà dans beaucoup de pays, mais ils n'empêcheront pas cette vague migratoire. Parce qu'on a tous en tête les images d'Alep et de ces villes bombardées en Syrie, en Irak. Et on sait que tant que les hommes auront des jambes et de l'énergie pour marcher, eh bien ils cesseront de sauver leur peau, comme nous tous, dans la même situation. L'extrême droite et la droite multiplient les pétitions contre l'accueil des réfugiés. Mais les socialistes ne sont pas en reste. Regardez comment ils présentent les migrants. Non pas comme des victimes, mais comme des indésirables, comme des fardeaux. Tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et nos enfants. C'est de la démagogie aussi stupide qu'infecte. Ils rendent ainsi la vie de ces femmes et de ces hommes plus insupportable encore. Et ils flattent les préjugés les plus abjects dans la population. Ils poussent les plus racistes à passer aux actes. Ce sont des pyromanes. Et les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier ou d'aujourd'hui. Nous en paierons tous les conséquences. Car les politiciens qui justifient le rejet des étrangers ne spéculent pas que sur les peurs et sur les fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de nos systèmes, de notre système de soins. Eh bien, c'est une façon de matraquer l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tous. Cela sert à justifier la politique anti-ouvrière en nous enfonçant dans le crâne qu'il faut serrer la ceinture. C'est une façon de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres, ceux qui ont un travail, à ceux qui sont au chômage, ceux en CDI, à ceux en intérim ou en CDD. C'est un instrument de division. Ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Irak, en Syrie, par leurs bombes et leurs manœuvres. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Ils la fabriquent pour que la minorité capitaliste s'enrichisse toujours et encore. Les pires xénophobes exploitent le fait que l'État alloue 11,45 euros par jour aux demandeurs d'asile pour monter contre les réfugiés, les travailleurs, les chômeurs, les femmes et les hommes au RSA qui parfois n'ont même pas cette somme-là dans leur poche. 11,45 euros par jour. Et cela ne dure que le temps d'examen de la demande d'asile. Et encore, si le demandeur accepte un hébergement, il ne touchera que 3 euros par jour et 0 euros s'il refuse cet hébergement. Mais comparer ces 11 euros aux 46 000 euros que, par jour que se sert donc Olivier Brandicourt, le PDG de Sanofi, aux 44 000 euros par jour que se sert celui de Renault, comparé à ce que reçoit chaque jour une bourgeoise comme Madame Bettencourt, 1 million. Et d'où vient cet argent, si ce n'est du travail de l'ensemble de la classe ouvrière? Cet argent pourrait servir à construire des logements, il pourrait servir à construire des écoles, des collèges, des centres de santé, il pourrait servir à répartir le travail entre tous, de façon que chacun ait un emploi et qu'on éradique le chômage. Alors, les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère. Ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Alors, dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans cette société. Celui des exploiteurs d'un côté et de l'autre, celui des exploités qui regroupe des hommes et des femmes de toutes origines et de toutes confessions. Face au camp de la bourgeoisie, opposons le camp de la travail, le camp des travailleurs. Les débats sur le terrorisme, les débats sans fin sur les fichiers S, sur l'état d'urgence, sur l'organisation de la police et de l'armée, les amalgames permanents entre terroristes et musulmans, sous couvert de grandes questions comme la laïcité ou la nature de l'islam. Du Front National jusqu'à Hollande, tous se complaisent dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître. Notre société est malade, elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15 ans, de 18, de 20 ans rêvent de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une expression les plus abjectes de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal, plus de projet collectif. C'est le culte de la réussite de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant des milliardaires alors que la misère s'étale sous nos yeux tous les jours. La société capitaliste nous met en concurrence permanente. Elle nous pousse au chacun pour soi, à l'isolement et à la haine de l'autre. C'est sur la base de cette déshumanisation que la délinquance et le fanatisme religieux prospèrent. Il est facile de promettre toujours plus de répression et de faire des discours électoralistes. Changer cette réalité-là, c'est une autre chose. Mais tant que nous ne la remettons pas en cause, la société ne fera que s'enfoncer dans la barbarie. Alors nous devons renouer avec les perspectives que portait le mouvement ouvrier à ses débuts. Renverser l'ordre capitaliste pour construire à la place une société de justice, de fraternité, enfin débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Un tel programme n'est pas une douce utopie. À chaque fois que le prolétariat s'est mis en branle, sous la Commune de Paris en 1871, lors de la Révolution russe 1917, il a changé les mentalités, il a ouvert les horizons. La Révolution russe a éveillé pour une longue période l'espoir des peuples opprimés. Et ce n'est pas pour rien que 40 ans, 50 ans plus tard, malgré toutes les déformations engendrées par le stalinisme et les divers courants nationalistes, les idées socialistes et communistes étaient encore synonymes d'émancipation et donnaient envie à de nouvelles générations partout dans le monde de s'engager pour les défendre. Eh bien, nous devons de nouveau implanter cette perspective de changer le monde dans notre classe. Oui, les travailleurs peuvent à nouveau ébranler le monde comme ils l'ont fait avec la Révolution russe. On est bien loin de ces perspectives, y compris au Parti communiste. Dans cette campagne, que nous propose d'ailleurs le Parti communiste? De trouver un bon candidat de gauche. Alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du PCF leur propose de retomber dans le même piège, dans les mêmes illusions. Elle cherche son candidat du côté de Montebourg, Duflot, Hamon. Mais ils ont tous été les exécutants dévoués de la politique de Hollande. Aujourd'hui, Montebourg dénonce le laisser-faire du gouvernement et le rend co-responsable de la fermeture programmée d'Alstom à Belfort. Mais qu'a-t-il fait lui-même pour empêcher celle de l'usine PSA de Citroën Aulnay? Qu'a-t-il fait contre la fermeture de Florange? Pierre Laurent est prêt à se rallier à l'un de ses politiciens bourgeois sans même exiger de lui quoi que ce soit pour les travailleurs. Il est prêt à le faire car tous ses choix politiques sont fonction des alliances électoralistes censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Au prétexte qu'il faut essayer de peser l'intérieur, le PCF s'est intégré au système et s'est fait complice de politiciens arrivistes. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, autrement dit par l'illusion que le sort des travailleurs pouvait dépendre du résultat des urnes, le Parti communiste a désarmé les travailleurs. Il les a écœurés et les a désorientés, au point que certains aujourd'hui regardent du côté de Le Pen. Alors, ceux qui parmi les militants et les sympathisants du Parti communiste se sentent encore communistes, et ceux qui éprouvent du désarroi devant l'impasse de cette politique, eh bien je leur dis qu'il faut retrouver confiance dans la force collective des travailleurs, qu'il faut contribuer à réimplanter la conscience de classe parmi les nôtres, qu'il faut que vous retrouviez les idées qui étaient à l'origine de votre parti. Ce n'est sûrement pas Jean-Luc Mélenchon qui fera cela et qui a même l'intention de faire progresser la conscience de classe. Mélenchon, que le PCF a soutenu en 2012 et qu'il pourrait soutenir encore cette fois, défend comme les autres une politique pour la France. Comme s'il pouvait y avoir une bonne politique à la fois pour le grand patronat et pour les travailleurs. Comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires. Avec d'autres, y compris Le Pen ou Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En prétendant que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, ils détournent l'attention du monde ouvrier, des vrais responsables du chômage et des bas salaires. La loi de travail, les licenciements d'Alstom et les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Et puis, opposer les pays les uns aux autres, c'est opposer les travailleurs entre eux. C'est ainsi, d'ailleurs, que Mélenchon en est arrivé à opposer les travailleurs détachés aux travailleurs de France, en expliquant que les travailleurs détachés venus de Pologne ou d'ailleurs viennent voler le pain des Français. Et puis, comme tous les réformistes, Mélenchon prétend encadrer et limiter un peu les méfaits du capitalisme. Mais regardez Tsipras, en Grèce. Tsipras est un Mélenchon qui a réussi, parce que lui, il a été élu. Mais que fait-il de son pouvoir? Eh bien, il a fini par s'aplatir face au diktat de la finance, et aujourd'hui, il lui sert de courroie de transmission pour imposer plus d'austérité encore au peuple grec. Parce qu'on ne peut pas amadouer la finance en se targuant du soutien électoral de son peuple. Pour faire reculer la finance, il faut vouloir s'appuyer sur la combativité des travailleurs. Et puis, pour avoir une chance de gagner, eh bien, il faut être prêt à aller jusqu'au bout du combat. C'est-à-dire jusqu'à exproprier la bourgeoisie. Et Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie de cela. Dans cette période de crise aiguë, le monde du travail ne peut compter que sur son propre combat de classe pour changer son sort. Car oui, la réalité, c'est que le capitalisme est à bout de souffle. Les marchés ne se développent plus. Pour vendre davantage, chaque trust, chaque entreprise doit arracher des parts de marché à un concurrent. C'est vrai pour les petites entreprises comme pour les grandes, comme Alstom, Thales, Dassault, SFR. Dans cette guerre économique, ce sont les travailleurs, les CDD, les intérimaires qui servent de fantassins. C'est à eux qu'il est demandé d'être toujours plus efficaces, plus compétitifs. C'est à eux qu'il est demandé de s'adapter et de vivre en fonction des commandes, de sacrifier son salaire, son emploi, en fonction des aléas de la concurrence. Eh bien, les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser enrôler dans cette guerre où ils servent de chair à canon pour le compte d'actionnaires qui finissent toujours gagnants. Il faut profiter de cette campagne électorale pour dire le plus clairement possible que la seule guerre que les travailleurs doivent mener et gagner, c'est la guerre de classe. Et par leur présence dans tous les rouages de la vie économique, par leurs intérêts communs opposés au patronat, les travailleurs représentent une force sociale unique. Pendant la mobilisation contre la loi El Khomri, les quelques secteurs qui se sont mis en grève ont une fois de plus démontré le rôle indispensable des travailleurs. Si les poubelles sont enlevées tous les jours, c'est parce que les éboueurs se lèvent tôt. Et pour que l'essence arrive dans les stations-service, il faut des routiers, des dockers et des travailleurs dans les raffineries et les dépôts de carburant. Pour que des millions de femmes et d'hommes se rendent à leur travail, il faut des cheminots. Et lorsque tous ces salariés arrêtent de travailler, eh bien c'est toute la vie économique qui s'arrête. Et c'est alors que ceux qui expliquent à longueur de temps que la classe ouvrière n'existe plus et qu'il n'y a plus d'ouvriers se mettent à les voir et à les insulter. Et c'est alors que les travailleurs aussi peuvent redécouvrir leurs forces et tout ce qu'ils sont capables de décider et de faire sans la bourgeoisie. Alors non, les travailleurs ne sont pas que des victimes à plaindre. Ils sont voués à se transformer en combattants. L'avidité des riches, le cynisme de leurs serviteurs politiques finiront par provoquer une explosion sociale. Nous en sommes certains parce que c'est la seule voie. Les exploités n'auront pas d'autre choix que de se battre. Alors, faites confiance aux capacités de lutte des travailleurs. Faites entendre le camp des travailleurs, ses intérêts et ses perspectives de changer la société. cette élection, qu'est-ce qui changera pour nous? Nous irons au travail, beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim, et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. Rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La seule nouveauté, c'est que les riches auront un nouveau président de la République à leur service. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que d'élection en élection, ils en ont fait l'expérience. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Et chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où les politiciens, relayés par les médias, nous jouent la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer des illusions. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile, ou alors pour essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou encore pour voter pour le moins pire. Il faut refuser de marcher dans le panneau. Mais profitons de cette période pour nous faire entendre. Cela ne changera pas la société, cela ne modifiera pas le rapport de force entre le patronat, avec le patronat et le gouvernement, c'est vrai. Il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire, qu'un mouvement social puissant, comme ceux qu'on a connus en mai-juin 1936 et en 1968. Mais regardez la mobilisation contre la loi El Khomri. Elle n'a pas réussi non plus à inverser le rapport de force et à faire reculer le gouvernement. A-t-elle été pour autant inutile? Sûrement pas. En se montrant, en défendant leurs intérêts pendant 4 mois, ceux qui se sont battus ont contribué à élever la conscience du monde du travail en général. Le patronat, le gouvernement, les médias bien-pensants ont déversé des tombereaux d'insultes et de calomnies sur les manifestants. À les entendre, les grévistes de la SNCF et des raffineries étaient des preneurs d'otages, des terroristes. Les manifestants étaient des casseurs d'hôpital. Eh bien, l'opinion ouvrière a résisté à tout cela, parce qu'une fraction des travailleurs ne lâchait pas le combat et continuait d'affirmer leurs droits. Eh bien oui, seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs, pour leurs perspectives, peuvent influencer la situation. La résistance, cela commence par dire qu'on n'est pas d'accord, alors exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est le premier acte de résistance. D'être minoritaire. À quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012? Et il faudrait recommencer avec un autre? Chercher à voter pour le moins pire est également un piège. La situation ne peut qu'empirer pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. On peut nous enlever beaucoup de choses, notre boulot, notre salaire, notre logement, mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions, notre dignité. Eh bien, il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. La moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant.